rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous culture. Aujourd'hui, Amy, Frédéric et moi-même allons vous présenter nos derniers coups de cœur pour vous donner des idées de lecture et de films pour passer un bel été. Il va être question de romans avec Les Contemplés de Pauline Hillier, Trouver refuge de Christophe Onodibio, Sortir au jour d'Amandine Di, Les amis de Nolwenn Leblévenec, Demain le jour de Salomon de Isara et Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrian. Il va être aussi question de films avec Asako 1 et 2 de Ryuzuke Hamaguchi et Un amour impossible de Catherine Corsini. Nous allons commencer avec Les Contemplés. Ancienne membre des Fémines, Pauline Hillier est arrêtée en 2013 suite à une manifestation à Tunis en faveur de la libération d'une militante tunisienne. Incarcérée à la Manouba, la prison des femmes, elle intègre un monde en vase clos qui impose ses propres règles et ses rites, où chacune a sa place et son rôle. Ces règles lui sont assénées dans une langue qu'elle ne comprend pas. Elle est enfermée en compagnie de 28 femmes dans une cellule de 30 mètres carrés, avec pour seule possession un exemplaire des Contemplations de Victor Hugo et un stylo. Le recueil de poésie l'aide à tenir comme moyen d'évasion, mais il devient aussi son carnet de bord. Elle y annote ses pensées. Dans ce roman autobiographique, elle raconte l'insalubrité de la prison, le manque d'hygiène, les privations, la tyrannie de la directrice, les brutalités des gardiennes et du système tout entier. Mais ce que j'ai trouvé de fort passionnant, c'est la galerie d'incroyables portraits de femmes qu'elle dresse. De son lit en hauteur, elle a tout le loisir, pendant ses 2 mois d'incarcération, d'observer les rituels quotidiens de ses codétenus. Et surtout, grâce à un petit talent de chiromancie, en lisant les lignes de la main, elle va progressivement devenir une confidente, surnommée la voyante, dépositaire des histoires de ces femmes meurtrières, voleuses ou victimes d'erreurs judiciaires, mais toutes coupables aux yeux d'une justice faite par et pour les hommes. Et de confidence en confidence vont se déployer les histoires individuelles. Alors il ne sera plus question d'hostilité et de peur, mais de solidarité et de sororité. Elle va faire des rencontres étonnantes, méfiantes de prime abord, mais rapidement intimes et touchantes. C'est ainsi qu'au sein de la dureté de la détention, l'humanité se fait une place. La narratrice va patiemment reconstituer l'histoire de chacune, au fil de révélations parsemées de mensonges. Ces femmes vont lui apprendre à rester digne. Et elle écrira ce roman quelques années plus tard, en hommage à ses co-détenues qui ont pris soin d'elle, avec une grande sensibilité, une forte tendresse pour elle. Elle a supporté cette expérience grâce à la poésie, les contemplations, et à ses compagnes de cellule, les contemplées. Ce récit est d'une fluidité vraiment agréable. On n'a pas envie de le lâcher, d'autant que Pauline Hillier réussit à nous épargner tout misérabilisme et effet mélodramatique. On est subjugué. Elle n'a passé que quelques mois dans cette prison, mais c'est le genre de parenthèse qui marque à jamais l'existence. Et elle en délivre un témoignage édifiant et bouleversant. On va parler encore de romans avec Trouver refuge de Christophe Onodibio grâce à Frédéric.
Christophe Onodibio est directeur adjoint de la rédaction du Point. Il travaille aussi pour France Culture et TF1. Donc, dans ce roman, pour Sacha et Mina, tout est allé très vite. Quand Sacha a dénoncé le dictateur qu'on appelle Papa, il a mis en danger sa famille. Mais quel secret explosif ce dirigeant veut protéger ? Pour se mettre à l'abri, Mina et Sacha ont le projet insensé de rejoindre le mont Athos, sanctuaire érigé de monastères fortifiés où l'on vit encore selon les règles byzantines. Il est interdit aux femmes depuis le XIe siècle, mais il a toujours protégé ceux qui y cherchaient refuge. Brutalement séparé de Mina, Sacha s'y retrouve avec sa fille Irène, qui découvre émerveillée les rites et les récits de cet Éden bordé par la Méditerranée, ainsi que les joies prodiguées par une nature grandiose. Mais le danger les guette à tout instant. Déterminée à tenter l'impossible, Mina parviendra-t-elle à sauver sa famille ? Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce texte, c'est que c'est une ode lumineuse à la transmission d'un père à sa fille. C'est aussi un bouleversant portrait de femme. Ce roman est une invitation à embrasser l'amour et les livres, la nature et la beauté, Il célèbre aussi magnifiquement l'histoire et les histoires dont nous sommes faits. Maintenant, Amy va nous présenter le film Asako.
Merci Frédéric. Effectivement, moi, je vais vous présenter donc, le film Asako 1 et 2 de Ryusuke Hamaguchi. C'est un film qui raconte l'histoire de la jeune Asako qui est éperdument éprise de Baku, un jeune homme imprévisible, fantasque et poétique. Et malheureusement, alors un jour, il disparaît, laissant Asako complètement désespérée. Et fuyant Osaka, la ville du drame, la jeune femme tente de s'en remettre et se reconstruire tant bien que mal à Tokyo. Et c'est là où elle finit par rencontrer un garçon qui ressemble trait pour trait à Baku. Alors d'abord effrayée, incrédule, elle s'abandonne à cette attirance partagée et elle s'installe avec le sosie du disparu. Mais Asako voudrait lui dire la vérité, mais en même temps elle ne veut pas perdre ce nouvel amour inespéré. Et c'est particulièrement ici où Hamaguchi adapte un roman japonais qui a tout d'une variation sur l'inépuisable film Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et bien qu'il soit adapté du roman japonais de Tomoka Shibazaki qui s'appelle « Même si je dors, même si je suis éveillée », le film a tout d'une variation inventive sur l'inépuisable Vertigo donc d'Alfred Hitchcock, où Scotty, qui est joué par James Stewart, entame une liaison avec Judy, incarnée par Kim Novak, improbable jumelle de Madeleine, son grand amour perdu. Et dans les deux cas, donc on passe d'un être qui est paré de mille vertus et peut-être trop parfait pour être vrai, à un ou une remplaçante, identique physiquement, mais sans l'aura de l'absent. Pourtant, des sentiments forts naissent dans cet écart. Le quotidien partagé engendre des liens et du désir. Et Hamaguchi, l'auteur de Drive My Car, offre ainsi une fine réflexion sur l'empreinte qui est laissée par une passion amoureuse et le passage à une relation plus durable. Et il suggère aussi que la rationalité conjugale et sociale est précaire, friable, prête à exploser à tout moment, et que les sentiments, justement, sont plutôt réversibles et les identités volatiles. En ce sens, même le titre du film est une belle trouvaille, parce que ça laisse croire que l'héroïne a également son double. Et fourmillement de détails sur la vie quotidienne d'un Japon contemporain, donc très, très affairé et très ultra-urbanisé, le film introduit presque presque par effraction l'élément surnaturel que représente le dédoublement de Baku en Ryurei. Par cette métaphore, se présente à Asako la possibilité d'une reprise, une chance de se désenvoûter. Et c'est dans cette idée, justement, que se rejoignent les deux dimensions de la carrière d'Hamaguchi. À la fois son attrait pour le théâtre, la discipline qui induit une ressaisie de sa propre expérience, avec une ouverture au monde, le travail documentaire qu'il a entrepris à travers la trilogie, justement, qui avait été consacrée aux survivants du séisme de mars 2011. Et il y a ces deux approches qui convergent dans une fiction qui balaye l'opposition superficielle entre réel et imaginaire.
Ouais, c'est un film surtout visuellement très très beau, je trouve. Oui. Chaque plan est magnifique. Merci, Amy. On va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter un morceau du dernier album des Muse, Will of the People, l'un des meilleurs albums du groupe depuis des années que nous avons à la bibliothèque Mourichon. C'est un album lumineux et flamboyant qui dénonce les grands maux du monde, évoque les dangers de l'aggravation des crises environnementales, sanitaires et politiques. Le ton est sarcastique, mais il exprime l'urgence d'une vie en crise. Le titre que j'ai choisi est l'excellent We Are Fucking Fuck. Attention, ça réveille. Black fuck of me. Vous écoutez le rendez-vous culture des bibliothèques et tout de suite, nous allons parler de Sortir au jour d'Amandine Dee.
Amandine Dee est une femme de lettres et comédienne née en 1980. Son besoin d'exploration des formes l'amène régulièrement sur scène pour partager ses textes lors de lectures musicales ou encore pour y interpréter un rôle dans l'adaptation de ceux destinés au théâtre. Alors, à l'origine de Sortir au jour, il y a cette rencontre dans une librairie entre l'autrice et Gabrielle. Gabrielle est thanatopractrice. Très vite, entre elles, un dialogue s'instaure où il sera tour à tour question de la quête de sens chez Gabrielle, de sa reconversion dans une profession qui véhicule autant de clichés que de préjugés, mais aussi des réflexions qui animent l'autrice à propos du désir de transmission, des pertes et des liens qui unissent les êtres et marquent les générations. Liant l'intime au politique avec son humour et son sens de la formule, Amandine Dee atteint le but qu'elle s'était fixé, écrire un livre réconfortant sur la mort. Alors pour moi, Sortir au jour est un livre étonnant qui aborde sincèrement, intelligemment un thème souvent évité sous cette forme. La mort est censée être triste, tragique, indicible, une perte infinie. Mais Sortir au jour nous montre aussi, surtout combien la mort est un thème qui nous lie. Les pages sont une rencontre, un dialogue pour rendre l'inévitable acceptable ou accepter le cours du temps, même quand il se brouille, pour ouvrir les portes aussi comme une quête de sens collectif. Chaque chapitre est un prisme, un regard pour penser la mort sous un angle particulier. C'est aussi une manière, peut-être, d'avoir moins ou différemment peur en liant l'intime au politique, en questionnant tout ce qui tourne autour de la mort, donc de la vie.
Merci Frédéric. Moi, c'est un roman de Nolwenn de Blévenec, Les Amis, que je voulais vous présenter, que j'ai beaucoup aimé. C'est son deuxième roman après La trajectoire de l'aigle en 2021. Et Nolwenn de Blévenec, c'est la rédactrice en chef de l'Obs, pour l'anecdote. Elle nous raconte la relation entre trois femmes. Armelle, la narratrice, Rime, son amie d'enfance, et Anna, qu'elles ont rencontrées dans le cadre de leur travail. Elles sont toutes trois journalistes pour un magazine culturel. Chacune est en couple, et elles ont connu la maternité en même temps. Cette histoire d'amitié est brillante, notamment parce que la narratrice fait ressortir le caractère fluctuant des relations humaines, et elle aborde la vie dans sa complexité, avec plein de justesse. La narratrice se remémore des moments de complicité. Elle exprime la force de leur relation, faite d'affection et de solidarité. Elle relate des événements significatifs dans l'évolution de cette amitié. Parmi ces morceaux choisis, deux voyages particulièrement importants qu'elles ont faits ensemble, l'un en Tunisie, l'autre en Bretagne. Et le roman s'ouvre le 23 mai 2021, 3 ans après ce week-end dans une île bretonne, qui a marqué une rupture entre ce trio, dont le lecteur ignore longtemps la nature. Elle fait le compte des malentendus, des rancœurs, et petit à petit, rapporte l'émergence d'agacements, d'ambitions divergentes, tournant à une confrontation permanente des volontés. Quelque chose s'est désaccordé entre elles, laissant place à la suspicion et à la culpabilité. L'auteur a le talent de toujours bien amener des références à la psychanalyse, à la littérature et même à la pop culture. C'est pertinent et je dirais même passionnant. C'est une superbe réflexion sur l'amitié, un éloge vibrant, sans aucune mièvrerie. Elle montre beaucoup d'acuité et une grande finesse psychologique. C'est une vraie lucidité de moraliste. Tout ça dans un style remarquable qui regorge de formulations très drôles, des dialogues percutants et sarcastiques. Elle décortique les névroses humaines avec beaucoup d'humour. J'ai été conquise par la justesse de son regard acéré qui rend son récit captivant. Encore un roman, mais plutôt du genre science-fiction maintenant, avec « Demain le jour » de Salomon de Isara.
Donc, au travers de ses écrits, Salomon de Isara cherche moins l'effroi du lecteur que son intérêt, l'envie qu'il se confronte à des personnages qu'il espère, sinon mémorables, du moins convaincants. Idem pour les nombreuses références qu'il glisse comme un appel à la curiosité. En 2022, son nouveau roman, Demain le jour, naît d'abord de la volonté de dépasser le format court dont il avait l'habitude, un défi en quelque sorte, afin de se prouver qu'il était capable de décrire une œuvre plus complexe et plus exigeante. Quant au récit et aux personnages, ils ont été d'abord improvisés à partir de la première phrase du roman, qui a donné lieu à un paragraphe, puis une page, un chapitre, jusqu'à ce qu'une structure se dégage d'elle-même. Quelques mots de l'histoire. On est en France en 1936. Le bruissement d'une nouvelle guerre se fait entendre. Un train traverse les Vosges, mais n'arrivera jamais à sa destination. De la carcasse encore fumante, alors que la nuit tombe, trois survivants trouvent refuge dans un petit village abandonné, au creux de la forêt, au milieu de nulle part. Accueillis par le maire, harcelés par des créatures mystérieuses, ils sont pris au piège et devront plonger dans les souvenirs les plus sombres de leur vie pour découvrir les raisons de leur présence en ces lieux. Avec « Demain le jour », Salomon de Isara signe un huis clos intime et fantastique, véritable miroir des vanités humaines. Et c'est vrai que le point fort du roman est l'ambiance particulière créée par l'auteur. Les Vosges, avec leurs vastes forêts, les petits villages perdus au milieu de nulle part, offrent un cadre idéal pour cette histoire basculant dans le fantastique avec une pointe d'horreur. Les personnages sont enfermés dans ce bourg et cherchent à comprendre ce qu'il se passe et à en sortir. Le huis clos est très bien mis en scène, la tension montant peu à peu avec des scènes très angoissantes. Demain le jour est aussi un roman passionnant, une véritable réussite dans le domaine du fantastique. Salomon de Isara arrive à créer un climat véritablement angoissant autour de personnages crédibles et très bien construits. La thématique de l'enfermement est traitée sous divers angles, à la fois général et introspectif. Je suivrai avec grand intérêt les autres romans de cet auteur.
Je vous ai laissé découvrir un extrait de la bande originale du film que je vais vous présenter, donc Un amour impossible de Catherine Corsini. Et donc c'est un morceau qui est interprété par Calloé et qui s'intitule Histoire d'un amour. Alors, ça résume assez bien, en partie, le film, parce qu'il y en a tellement à dire. Parce que c'est un film réalisé qui est donc par Catherine Corsini, mais d'après le roman éponyme, unanimement salué de Christine Angot, au cœur d'une Italie à la fin des années 50. On y suit, entre autres, le combat d'une femme moderne pour son temps, Rachel, pour faire reconnaître sa fille Chantal par le père de l'enfant. Alors, il me semble ici important de s'attarder un instant sur le titre du film, qui, même s'il fait écho au roman éponyme, pourrait, selon moi, se conjuguer sous la forme d'une interrogation, parce que l'amour reste, selon moi, au cœur du film et du roman, à savoir l'amour maternel, l'amour des personnes avec qui on grandit, ce qu'il peut rester ou non de l'amour entre deux amants, et bien évidemment les rapports homme-femme, et notamment la modernité de Rachel, mère célibataire ou fille-mère, comme on disait à l'époque, qui n'accepte pas les convenances de son temps. Le roman et le film font surgir des thèmes comme la solitude, la mélancolie de Rachel, brillamment incarnée d'ailleurs par Virginie Elfira, le drame et le combat d'une mère qui, pour faire reconnaître son enfant, mais qui fait face aussi à la brutalité et le sadisme de Philippe, l'amant de Rachel, qui est joué par Nils Schneider, se considérant comme supérieur à tout point de vue, et qui aussi met en évidence le fait de vouloir sortir aussi de sa condition, entre autres, alors dans le film, c'est aussi très visiblement aussi indiqué, la passion amoureuse entre deux personnes de classe sociale différente. Mais qui reste très universel puisque l'on tente à travers les dialogues de reconstituer un passé et une perception amniotique de la relation mère-fille de l'enfance à l'âge adulte avec les autres amours de sa vie, mais qui sont ici perçus comme des personnages secondaires. Et je pense vraiment que c'est un film qui est magnifique et émouvant et qui, je l'espère, ne vous laissera pas indifférent.
Merci Amy. Un dernier roman pour aujourd'hui, c'est « Que reviennent ceux qui sont loin » de Pierre Adrian. C'est une très belle lecture pour l'été. Pierre Adrian, c'est ce romancier historien qui faisait partie du trio embarqué sur la scène dans « Roman fleuve » de Philibert Hume, que j'avais adoré et présenté lors d'une précédente émission. Donc le narrateur nous raconte avec beaucoup de délicatesse les étés dans une maison de vacances familiale en Bretagne. Une maison de bord de mer où chaque été règne une effervescence joyeuse et libre dans laquelle toutes les générations se retrouvent naturellement pour partager des moments de vie simples, goûter aux petits bonheurs estivaux pour cette grande famille. Le narrateur revient après quelques années d'absence dans cette maison de ses grands-parents. Il évoque avec talent le bonheur des retrouvailles. Son affinité avec son neveu de 6 ans va lui permettre de renouer avec l'enfant qu'il était. On a une écriture très fine, un style incroyablement limpide. Et le récit alterne souvenirs et vie quotidienne. Il exprime les réminiscences d'une enfance révolue, mais omniprésente. Les sensations d'hier sont toujours là, immuables. Et il met en lumière l'idée que, si rien ne dure, tout perdure et se perpétue. On ressent bien le passage du temps qui chaque année s'écoule inexorablement. C'est un récit à la fois intime et universel, où chacun peut y retrouver une part de son enfance. C'est tendre, très beau, d'une simplicité agréable, empreint de nostalgie et de mélancolie. C'est un roman d'ambiance, d'impression, de ressenti, où tout est tellement doux qu'on se laisse aller avec le narrateur. On se croirait avec lui, dans ce rythme langoureux de l'été, une parenthèse hors du temps. Nous espérons vous avoir convaincus par ces découvertes. Je vous en rappelle les titres. Donc on a parlé des Contemplés de Pauline Hillier, Trouver refuge de Christophe Onodibio, le film Asako 1 et 2 de Ryusuke Hamaguchi, Sortir au jour d'Amandine Di, Les Amis de Nolwenn de Blévenec, Demain le jour de Salomon de Isara, Un amour impossible de Catherine Corsini, Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrian. Tout à l'heure, à 20h15, la Bibliothèque Saint-Corneille vous propose la projection du film Brooklyn de John Crowley, avec en préambule la projection du court-métrage de Guillaume Lelieu, qui s'intitule La projection. Mardi 27 juin à 18h, la Bibliothèque vous propose une très belle rencontre sur le thème de faire la guerre aujourd'hui, avec Samuel Fauré et l'achat Haute-Mézouri, deux écrivains qui ont côtoyé la guerre et ont eu de longs contacts avec les combattants. Samuel Fauré est journaliste indépendant. Il a reçu le prix Albert Londres en 2017 pour ses reportages sur la bataille de Mossoul en Irak. C'est le correspondant de Libération et Le Soir à Jérusalem depuis 2020. Et il raconte dans Les Aurores incertaines, récemment paru, ses 6 années de reporter au Moyen-Orient, mais aussi l'évolution de son rapport à la guerre, à la mort et aux révolutions. Lacha Otsmezou Zouri, c'est un ancien diplomate, conseiller scientifique pour le magazine Guerre et Histoire. Et il vient de publier Combattre pour l'Ukraine. L'entrée est libre, venez nombreux. Vendredi 30, nous avons rendez-vous sur Graphite à 18h pour notre rendez-vous série. À très bientôt et bon week-end.